contre Ajaccio, toutes ces rencontres qui débuteront dans 50 minutes. 19h10 ici à Paris. Merci d'écouter RFI.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition de Géopolitique consacrée aux Ouïghours, population de l'Ouest chinois, généralement beaucoup moins connue en Occident que la population tibétaine, située dans la province du Xinjiang, transformée il y a 60 ans en région autonome des Ouïghours du Xinjiang. Les Ouïghours, qui sont aujourd'hui au nombre de 10 millions, font partie des préoccupations du régime chinois. Ils sont présents sur un territoire qui constitue une interface majeure dans le cadre du développement des échanges entre la Chine et les républiques voisine d'ex-URSS et entre la Chine et le Pakistan. Le Xinjiang a également une position clé sur les routes d'acheminement d'hydrocarbures. Le régime chinois et le dilemme ouïghour pour cette édition réalisée en partenariat avec le série Sciences Po. Nos invités, Dilnour Rayan, chargée de cours à l'INALCO, l'Institut des langues orientales, et directrice de la revue bilingue Regard sur les Ouïghours. Bonjour.
Bonjour.
En duplex depuis les studios de nos confrères de Radio France à Bordeaux, Rémi Castets, docteur en sciences politiques, rattaché au Centre d'études et de recherche internationale, maître de conférences en langue et civilisation chinoise à l'Université Bordeaux-Montaigne et chargé de cours à Sciences Po Bordeaux. Bonjour.
Bonjour.
Et par téléphone, Léo Maillet, étudiant en deuxième année de master à Sciences Po Grenoble, en ligne depuis la localité de Kayseri en Turquie, située à 300 km au sud-est d'Ankara, qui accueille une importante communauté ouïghour. Bonjour.
Bonjour.
Deux éléments d'actualité pour illustrer de près ou de loin la question ouïghour. Le procès cette semaine à Bangkok de deux ouïghours accusés de meurtre pour l'attentat d'août dernier qui avait fait 20 morts dans la capitale thaïlandaise. Et les émeutes qui se poursuivent à Hong Kong, l'ancienne colonie britannique, émeutes que Pékin qualifie de mouvement séparatiste, terme que les autorités chinoises utilisent pour les séparatistes du Xinjiang et du Tibet. Rémi Castets, qu'est-ce qui justifie ce qui apparaît comme une instrumentalisation par les autorités de Pékin des mouvements de contestation?
Je pense qu'en réalité, les autorités à Pékin sont assez inquiètes de la situation, notamment à Hong Kong. Hong Kong était perçu depuis les années 80 comme un modèle, une vitrine de la réunification de la Chine. C'est un des projets donc des dirigeants chinois que de reconstituer le territoire chinois en réintégrant, on l'a vu dans les années 90, les anciennes colonies britanniques et portugaises à Hong Kong et Macao. Mais derrière tout cela, il y a le projet de la réintégration de Taïwan à travers ce système dit du « un pays, deux systèmes » qui doit permettre de réintégrer des territoires à la nation en maintenant leurs spécificités. Or, à Hong Kong, est en train de se poser l'enjeu du système politique qui doit prévaloir pour gérer ce territoire. Donc la question est là-bas que l'opinion publique est assez divisée. Une partie de l'opinion publique aimerait maintenir un semblant de démocratie et ces émeutes à Hong Kong sont liées au débat sur la forme que doit prendre le système politique hongkongais, en l'occurrence l'élection du chef de l'exécutif.
Alors Dilnour Rayan, je me tourne vers vous. Ce que vient d'évoquer Rémi Castets sur Hong Kong, puisque c'est l'actualité cette semaine, résonne d'une certaine manière sur la question du Xinjiang également.
Tout à fait. En fait, ce qui se passe à Taïwan, par exemple, dernièrement, les élections à Taïwan, et aussi ce qui se passe, en fait, les contestations, notamment à Hong Kong, c'est des questions aussi qui intéressent aussi les Ouïghours en général, aussi bien dans la région et à l'extérieur, dans la diaspora. Et sur la qualification de séparatistes pour toutes les contestations, y compris de Hong Kong et même de Taïwan, parce que c'est aussi le même terme utilisé par les autorités pour les indépendantistes taïwanais, ce qu'ils disent pas indépendantistes en Chine, ils utilisent dans la presse chinoise séparatistes taïwanais. Donc, visiblement, les autorités chinoises, ils ont du mal, ils ont un problème avec les termes, avec la définition aussi. Et donc, en voulant mettre tous dans le même sac, finalement, en fait, ils sont victimes de leur propre de leur propre mouvement, de leur propre intention. Et finalement, en fait, maintenant, on arrive que toute contestation est mis dans le comment dans la définition des séparatistes, que ce soit les mouvements ouïghours ou les contestations chinois et pareil les intentions des Tibétains aussi.
Donc, est-ce que je peux prolonger le propos de Dilnur?
Oui, Rémi Cassette.
En fait, on est face à une confrontation entre différents modèles de la nation. On a un parti communiste qui a un modèle, une représentation de la nation chinoise qui reprend, si vous préférez, grosso modo, les frontières de l'ancien empire des Qing. Et entre-temps, on a d'autres représentations de la nation pour des raisons peut-être que l'on va évoquer dans cette émission qui ont émergé, notamment au Xinjiang avec les Ouïghours, chez les Tibétains et maintenant à Taïwan, avec une opposition qui vient d'arriver au pouvoir avec le Parti démocrate progressiste et qui se pose la question très sérieusement de savoir si Taïwan appartient à la nation chinoise ou bien si Taïwan a un destin national qui est autre. Et en réalité, c'est ce qui pose problème au parti. C'est le fait que sa représentation de la nation est contestée sur les marges du territoire chinois.
Léo Maillet.
Oui, moi je vois deux thématiques qui émergent un petit peu. Une première qui touche plutôt à la gestion du pays, que ce soit à la fois dans la province autonome ouïghour, qui fait l'objet de cette émission, ou encore dans la province du Tibet, ou dans les liens que le continent entretient avec Taïwan. Et aussi la question de l'identité. Alors peut-être pour commencer, on peut attaquer la question d'abord de la gestion, justement, de la province ouïghour. Qu'est-ce qui justifie, ou en tout cas, qu'est-ce qui a entraîné au début les velléités séparatistes d'île Noréenne?
C'est toute la question de nationalisme, effectivement. Et c'est aussi ça lien avec, la contestation ouïghour, elle ne date pas d'hier, effectivement, elle ne date pas d'hier, et que au début du XXe siècle, nous avons deux républiques, la première en 1933, c'est une république islamique, et la deuxième, c'est une république laïque en 1944, qui a duré jusqu'à 1949, jusqu'à l'arrivée de l'armée populaire de libération de la Chine. Et donc, c'est la notion de l'identité et le nationalisme identitaire a commencé en Europe au XVIIIe siècle. C'est arrivé un peu tard chez les Ouïghours, mais avec, effectivement, c'est par plusieurs mouvements de renaissance chez les Ouïghours, fin 19e siècle et début 20e siècle, et que cela a donné, d'autant plus, en fait, avec la renaissance du nom de l'ethnonyme ouïghour en 1921, cela a donné une nouvelle notion de l'identité. Au départ, l'identité turque, ensuite pour s'affirmer comme identité ouïghour entière. D'autant plus que le nombre des Chinois étant très peu jusqu'aux années 80-90. Les Ouïghours, ils se sentaient entièrement les maîtres de leur territoire. C'est justement en fait les contestations qui ont commencé avec l'arrivée des Chinois et ensuite maintenant depuis notamment intensifiées depuis les années 90. Ça aussi, c'est le processus qui s'est développé petit à petit en regardant la politique de la Chine vis-à-vis des minorités.
Alors, justement, et pour nos auditeurs, après ça je passerai la parole à Rémi Cassette, vous évoquiez 1949 d'Île Noréenne, avec précisément c'est à partir de cette date qu'un afflux massif, alors que vous dites de Chinois, les Han, dans cette région de l'Ouest chinois, avec la population Han qui est passée de 6,7% en 1949 à environ 40% de la population régionale au début des années 2000. C'est évidemment Rémi Cassette, un renversement extrêmement important.
Oui, ça fait partie de ces raisons qui expliquent la montée en puissance du sentiment anticolonial dans certaines franges de la société ouïghour. Donc, il faut remonter toujours dans l'histoire longue quand on pense l'État chinois. Et très tôt dans l'histoire, hein, durant les premiers épisodes en fait de domination chinoise hein, de la région, puisque l'Empire chinois a contrôlé la région sous la dynastie des Han, c'est-à-dire il y a plus de 2000 ans. Déjà à l'époque, on faisait venir des paysans soldats que l'on installait pour contrôler les petits royaumes et les itinéraires commerciaux de la route de la soie. Donc l'État communiste a repris ces stratégies de colonisation, de déplacement de population Han pour stabiliser les marges de l'Empire. Et il faut souligner que perdure au Xinjiang une structure, un organisme qui s'appelle les corps de construction et de production du Xinjiang, qui ont pour fonction justement de canaliser cet afflux de population Han. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a environ 40% de la population du Xinjiang qui est Han, et parmi ces Han, plus du tiers sont rattachés à cette structure, au corps de construction et de production du Xinjiang. Donc c'est vraiment une politique pensée depuis le début et qui avait pour objectif de à la fois permettre l'installation de troupes et de forces de police qui allaient stabiliser la région, de par là même aussi d'avoir des fonctionnaires Han fiables qui allaient encadrer la société ouïghour. Après, il y avait aussi la volonté de valoriser les terres vierges et les différentes ressources naturelles de la région. Et donc tout cela a modifié les équilibres démographiques. Mais il faut aller au-delà. Le problème, c'est que pour faciliter, pour attirer les populations dans la région, donc on investit massivement dans les zones de colonisation. Donc ces zones peuplées essentiellement de Han sont très dynamiques économiquement, connaissent une croissance rapide, une augmentation rapide du niveau de vie des populations. Et les zones ouïghours se sentent un petit peu délaissées par ces investissements, même s'ils ne sont pas inexistants. Et donc il y a des inégalités de revenus qui s'articulent le long de lignes ethniques. Ça, c'est la deuxième grande raison qui explique le mécontentement ouïghour. Et enfin, la dernière, c'est la question de l'autonomie de la région, qui est théorique et qui existe sur le papier, mais en réalité, il n'y a pas d'autonomie politique du Xinjiang qui permettrait de mettre en place des politiques qui répondraient aux volontés ou aux désirs de la société ouïghour, car les autorités régionales sont sous le contrôle direct du parti communiste local, qui lui-même est dirigé par des Han qui sont en lien étroit avec le parti central à Pékin.
Vous écoutez RFI.
RFI. Géopolitique.
Marie-France Chatin.
Alors, je vais repasser la parole à Léo Maillet, mais juste pour comprendre ce que vous venez d'évoquer, Rémi Castet, donc très forte inégalité et puis d'une certaine manière puissante discrimination, je parle sous votre contrôle, d'Il Nouryan, discrimination à l'égard des Ouïghours. Ces années dernières ont été marquées par une multiplication des actes de violence qui sont l'expression d'une certaine manière d'un sentiment peut-être d'exaspération. Est-ce que l'identité ouïghour est menacée? D'Il Nouryan.
Tout à fait. Pourquoi les Ouïghours sont mécontents? Effectivement, Rémi, il vient d'évoquer les questions, notamment les inégalités de traitement. Et aussi, en fait, il y a une incompréhension entre les Chinois et les Ouïghours. Comment dire, les autorités chinoises et les Ouïghours. C'est-à-dire que, pour les autorités chinoises, ils ont toujours affirmé que les Ouïghours, ils font partie d'une grande famille chinoise, donc Zhonghua. Et que les Ouïghours, ils se sentent une nation à part entière, et ils en ont très fiers. Et qu'il y a donc en fait une question d'incompréhension, de question d'identité. Donc les Ouïghours, ils se sentent d'une part sous-estimés, et aussi évidemment la discrimination n'aide pas à ce sentiment. Et du fait de cette migration massive et les inégalités dans le marché du travail et tout autre traitement à l'égard des Ouïghours, qui sont traités comme des citoyens de seconde zone et troisième zone, et leur renforce ce sentiment national et identitaire.
Léo Maillet.
Une question pour Rémi Castet, peut-être sur la place de l'islam dans ces difficultés de gestion de la diversité. En fait, on sait que la Chine enregistre officiellement 56 minorités ethniques différentes, donc une diversité énorme, qu'on retrouve dans la province du Xinjiang. Quelle est l'attitude des pouvoirs publics face à l'islam, qui est la religion des Ouïghours?
Alors, peut-être là aussi on peut revenir un petit peu sur l'histoire longue. Quand l'empire des Qing conquiert la région au milieu du XVIIIe siècle, la région est une théocratie soufie. C'est-à-dire qu'elle est dirigée par des grands maîtres, donc de ces courants mystiques qui se rattachent à l'islam. Et ils vont être chassés du pouvoir. Et tout au long du XIXe siècle, hein, ces grands maîtres soufis, depuis les khanats voisins d'Asie centrale, vont essayer de reconquérir le Xinjiang, de chasser les Qing. D'ailleurs, il y aura un petit épisode dans les années 1870-1870 où le Xinjiang va connaître un bref épisode d'indépendance avant la reconquête dans les années 1880. Donc, si vous préférez, pour l'État chinois, la question de l'islam au Xinjiang a toujours été sensible. Historiquement, c'est un canal d'opposition. Et l'islam, en réalité, propose des modèles de légitimité politique qui remettent en question celle du parti. À cela vient se greffer le fait que, comme l'a dit Dilnur, en réalité, le sentiment national ouïghour a commencé à se structurer au début du XXe siècle. C'est une période, là aussi, où la Chine était en proie à ce qu'on appelle la période des seigneurs de guerre, avec un affaiblissement du gouvernement central. Et durant ces années-là, le Xinjiang a presque échappé, voire même a échappé par moments, là aussi Dinur l'a mentionné, au contrôle de l'État chinois. Donc il y a déjà une méfiance, c'est un territoire qui est considéré comme un territoire sensible. Donc l'islam a connu en fait une revitalisation, a été revitalisé dans les années 80, quand justement Deng Xiaoping a décidé de desserrer l'étau sur la société, et notamment de desserrer l'étau, le contrôle qui existait sur les minorités. C'est un petit peu un âge d'or d'ailleurs ces années 80. À la fois au Tibet ou au Xinjiang, où les populations vont renouer avec leur culture, renouer avec la pratique religieuse. Le problème, c'est que très rapidement, cet islam au Xinjiang est devenu une force de contestation, puisque vous comprenez bien que les valeurs, les modes d'organisation de la société proposés par l'islam ne sont pas forcément compatibles avec ceux du parti. Donc à la fin des années 80, début des années 90, l'enseignement de l'islam va progressivement être très contrôlé, voire extrêmement limité. Aujourd'hui, c'est très difficile pour un jeune imam de se former. On a des instituts officiels, mais c'est plus des centres de propagande, véritablement, que des centres où l'on étudie la théologie. Et aujourd'hui, les Ouïghours se sentent bridés dans leur identité islamique. Donc, l'islam, sur le plan politique, est marginal. L'opposition ouïghour, elle est essentiellement nationaliste. Son modèle, c'est plutôt le modèle démocratique occidental. Mais il est vrai qu'à partir de la fin des années 80, début des années 90, se sont structurés sur les marges de cette opposition des cercles, au départ islamo-nationalistes, qui ont dérivé sur leur frange vers le djihadisme international. Et c'est cette fameuse histoire qu'on a entendue des Ouïghours qui ont été capturés en Afghanistan dans les années 2000 et qui ont fini à Guantanamo avant d'être libérés récemment.
Alors, on en parlera dans la deuxième partie d'émission. Ce que je vous propose, puisqu'il nous reste une minute et demie avant de terminer cette première partie, c'est de réagir à ce que vient d'évoquer Rémi Castet sur l'islam au Xinjiang, qui est une force de contestation, tout en étant plutôt marginal par rapport au nationalisme des Ouïghours. Des
Effectivement, l'islam, en fait, avant de revenir à l'islam, en fait, les Ouïghours, toutes les religions avant d'arriver à l'islam il y a 1000 ans. Donc ils ont été chrétiens avant cela, et chamanistes, et bouddhistes, etc. Et c'est pourquoi, en fait, jusqu'à présent, jusqu'à très récemment d'ailleurs, en fait, dans la vie ouïghour, l'islam, elle tient une place extrêmement importante, mais très culturelle. On peut dire même strictement culturel, c'était strictement culturel. Mais seulement, en fait, effectivement, je rejoins Rémi, depuis, en fait, des années 90, notamment, avec la politique qui est très restrictive sur la religion et contrôle extrême de la religion, il y a une petite frange qui commence en fait à mettre l'islam comme leur moyen de contestation. Donc, ou alors c'est leur refuge contre une oppression. Par contre, en fait, on peut pas parler
De
2011, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir écouté. Il est 8h20 ici à Paris.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur les Ouïghours. Nous retrouvons nos invités, Dilnour Rehan, chargée de cours à l'INALCO, l'Institut des langues orientales, directrice de la revue bilingue Regard sur les Ouïghours, en duplex depuis les studios de nos confrères de Radio France à Bordeaux, Rémi Castets, qui est maître de conférences en langue et civilisation chinoise à l'Université Bordeaux-Montaigne et chargée de cours à Sciences Po Bordeaux, et par téléphone, Léo Maillet, étudiant en deuxième année de master à Sciences Po Grenoble, qui est en ligne avec nous depuis la localité de Kayseri. En Turquie, située à 300 km au sud-est d'Ankara, qui accueille une importante communauté ouïghour de l'ordre de 10 000 membres de cette communauté. Léo Maillet.
Oui, alors une question pour Rémi Castet. On est cette semaine dans les rebondissements du jugement des deux suspects ouïghours accusés d'avoir perpétré un attentat à Bangkok le 17 août de cet été. Cet attentat soulève directement la question des exilés ouïghours et des nouvelles routes de cet exil. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs un petit peu les raisons justement de ce changement d'itinéraire ?
Alors traditionnellement, les Ouïghours qui commerçaient avec l'extérieur ou désiraient réaliser le pèlerinage vers la Mecque emprunter les anciennes routes de la soie, et il faut savoir qu'en Asie centrale, notamment au Turkestan occidental, dans l'ex-Union soviétique, notamment au Kazakhstan, au Kyrgyzstan, on a une assez importante diaspora ouïghour. Dans les années 90, cette diaspora, justement, s'est assez impliquée politiquement en faveur de la cause anticoloniale ouïghour. Et quand ces pays ont accédé à l'indépendance, la Chine a mené une diplomatie habile, notamment à travers l'organisation de la coopération de Shanghai, afin d'amener les républiques locales à contrôler les mouvements de la diaspora. Et surtout, à empêcher l'exil des militants ouïghours ou des réfugiés ouïghours qui quittaient le Xinjiang. Donc la plupart des gens maintenant qui veulent quitter le Xinjiang, qui veulent émigrer, ne passent plus par l'Asie centrale car ils sont sous la menace des accords d'extradition entre la Chine et ces pays-là. Et donc du coup, depuis quelques années, effectivement, ils passent par l'Asie du Sud-Est. Pour beaucoup, l'objectif, c'est d'arriver en Malaisie et depuis la Malaisie ou d'autres pays, essayer de repartir soit vers la Turquie, soit vers l'Occident. Et cette histoire, donc des attentats de Bangkok, est liée à ces nouvelles routes, puisque ces Ouïghours, souvent traversent les frontières, sont détroussés par les passeurs et ont besoin de travailler sur place pour poursuivre leur émigration. Et donc en 2015, plusieurs centaines de Ouïghours ont été en situation illégale, ont été capturés par les autorités thaï. Et la Chine a demandé l'extradition de ces populations. Donc cet attentat, donc selon la thèse officielle, selon ce que l'on peut lire pour le moment en l'état du procès et de la procédure judiciaire, cet attentat aurait été mené notamment par des Ouïghours pour protester contre l'extradition d'une partie des Ouïghours qui avaient été arrêtés par les autorités thaï il y a quelques mois.
Dilnour Rehan, vous souhaitez ajouter quelque chose ?
Concernant l'attentat de Bangkok, comme cette semaine il y a eu ce procès, deux Ouïghours ont été accusé et l'un d'eux, il a contesté. Et donc, son avocat a fait parvenir qu'en fait, il a été contraint sous la torture d'admettre qu'il est lié à cet attentat. En réalité, il nie toujours d'avoir quelconque lien avec cet attentat et que son seul crime qu'il admet, c'est rentrer dans le territoire thaï illégalement.
Léo Maillet.
Alors, ça pose plusieurs questions, notamment celle de l'économie à la frontière, puisque on assiste à des flux de plusieurs centaines de personnes, et du coup, il y a toute une économie locale qui se monte avec des régimes de passeurs, en fait, qui permettent justement cette transition. Est-ce qu'on peut, émettre des suppositions quant au sort des réfugiés extradés vers la Chine, Rémi Castet ?
On a très très peu d'informations en général hein, sur les personnes qui sont extradées. Les organisations de protection des droits de l'homme essaient de suivre les cas de ces personnes-là, mais très souvent, ils disparaissent ou jusqu'au moment où ils sont présentés à un procès et assez hein, généralement sévèrement sanctionnés. Donc, l'opinion publique, notamment de la diaspora ouïghour, voilà, a été un petit peu choquée hein, par ces extraditions assez massives. Hein. C'est la première fois qu'on extradait autant d'Ouïghours vers la Chine. Et bien évidemment que le sort de la plupart d'entre eux sera un sort peut-être tragique, effectivement.
Pour poursuivre avec la notion de diaspora, vous l'évoquiez, Rémi Castet dit Ouïghours particulièrement présent au Kazakhstan, au Kyrgyzstan, au Turkménistan, également en Ouzbékistan. La Turquie, puisque vous êtes à Kayseri, Léo Maillet, la Turquie, c'est 10 000 Ouïghours à peu près. Et juste pour aller plus loin, et dans des proportions plus restreintes, les Ouïghours qui sont également présents, je parle sous votre contrôle aussi, Dilnur Reyhan, présents en Allemagne, en Australie, en Arabie Saoudite, en Suède, au Canada, aux États-Unis, en Inde, au Pakistan, également en France donc. Léo Maillet, qu'est-ce que l'on peut dire de la situation des Ouïghours en Turquie aujourd'hui et au-delà des liens entre la Turquie et la Chine? On sait que le président turc était en visite en Chine l'été dernier.
Tout à fait, il était en visite en Chine. Alors, principalement, en tout cas, c'était les motifs officiels pour s'assurer de la continuité des accords commerciaux qui ont cessé de se multiplier entre la Chine et la Turquie. Après, c'est sûr qu'il y a une forme de solidarité, en fait, qui émane de la société civile turque elle-même, qui se sent proche des Ouïghours. Simplement au niveau des proximités linguistiques, culturelles, religieuses, il y a vraiment un sentiment d'appartenance. Et ça se vérifie même lors de l'arrivée de réfugiés, qui est assez régulière ici en Turquie, alors principalement dirigée vers Istanbul, mais aussi vers Kayseri, la ville d'Anatolie centrale dans laquelle je me trouve. Et là, ce qu'on remarque à chaque fois, donc déjà la presse est très sensible à ce qui se passe dans la province du Xinjiang en Chine, et commente très régulièrement l'actualité à la fois de la répression et même des petits conflits qui émergent au sein de la société. Simplement, pour mentionner un fait intéressant, on assiste à chaque fois l'utilisation de termes comme nos semblables ou comme nos frères et sœurs ouïghours. Donc il y a vraiment un sentiment de proximité qui s'étend assez largement.
Dilnur Reyhan, vous souhaitez ajouter quelque chose à ce que vient de dire Léo Maillet?
Dans les années 90, on disait qu'il y a 10 000 Ouïghours en Turquie, selon les études. En 2009, le ministre des Affaires étrangères turc, il avait déclaré qu'il y avait 300 000 Ouïghours en Turquie. Donc, on ne sait pas réellement combien d'Ouïghours sur place. Ce qui est sûr, depuis en fait les incidents de 2009, il y a eu une migration assez conséquente, notamment vers la Turquie. Effectivement, il y a un sentiment très proche avec la Turquie. Ce sentiment a été alimenté au départ en fait dans la région Chine Ouïghour depuis les années 80-90, notamment par l'intermédiaire des écrivains et des intellectuels. Aujourd'hui, avec en fait les relations qui se sont reprochés entre la Chine et la Turquie et que les visites répétées des chefs d'État turcs, effectivement, il y a une augmentation ou alors un renforcement d'un sentiment d'appartenance entre les deux, notamment chez les Ouïghours de la région, ce qui n'était pas le cas dans les années 90.
Alors, est-ce que la situation que nous évoquions pour les Ouïghours au Xinjiang génère finalement un accroissement des départs de Ouïghours de la région, Rémi Castet?
Alors, on a assez peu de chiffres sur la question, puisque c'est essentiellement une immigration illégale. Il est difficile d'ailleurs souvent pour les Ouïghours de voyager déjà légalement à l'étranger. Hein,
Alors, la question des passeports qui était en négociation a levée récemment, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Ouïghours ont des passeports. Mais je vois que Dilnur Reyhan...
Non, en fait, c'est intéressant parce qu'effectivement, en fait, cette année, l'été 2015, que les passeports ont été levés, donc en fait, c'est facilité pour les Ouïghours avoir des passeports. Et ce soudain changement a étonné aussi la diaspora, les Ouïghours. pourquoi soudain ce soulagement, en fait, alors que la Chine, elle était très frileuse sur le départ des Ouïghours. Mais dans la diaspora, en fait, les Ouïghours, ils soupçonnent que peut-être il y a un lien, d'une part, avec les relations turco-chinoises qui a été mise en doute, notamment par la migration ouïghour illégale vers l'Asie du Sud-Est. Et de cette façon aussi, la Chine a été mise en cause sur la scène internationale. Donc, l'image de la Chine a été mise en cause aussi. Et d'autre part, en fait, une autre frange de la diaspora, ils soupçonnent que c'est une méthode ou alors tactique de la Chine, peut-être, de laisser des Ouïghours vers la migration, notamment ceux qui contestent, d'autant plus, en fait, et orienter ces gens-là vers la voie de l'islam radical par la mise en place des religieux dans la région et donc de leur faciliter de rejoindre les camps à l'étranger et que d'une part ils ne peuvent pas revenir de toute façon et donc c'est doublement avantageux pour la Chine. Ça c'est l'opinion d'une partie de la diaspora.
Rémi Castat, vous souhaitez rajouter quelque chose?
Oui, et puis je pense qu'en fait, la possibilité de voyager va quand même vraiment rester aussi très liée au dossier propre à chaque citoyen. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes ou certaines familles qui, je pense, continueront à avoir des difficultés pour quitter la région. Par contre, je voulais juste revenir sur ce qu'on avait évoqué sur le lien entre la Turquie et les Ouïghours. Il y a des liens aussi politiques assez étroits entre la sphère militante ouïghour et notamment les sphères panturquistes en Turquie, et ce, dès le début du XXe siècle. On a évoqué les idéologies qui structuraient l'opposition politique ouïghour et le sentiment national ouïghour, avant d'être pas proprement dit ouïghour, il a été turc à travers ce qu'on appelle justement le djihadisme et le panturquisme, qui était ce courant idéologique qui visait à moderniser les cultures turques afin de les émanciper de la colonisation. Et donc il y a vraiment une solidarité entre les nationalistes turcs qui s'inscrivent dans cet héritage du panturquisme et les militants anticoloniaux ouïghours.
Alors, je souhaiterais qu'on, peut-être, on aborde la question d'actualité autour de l'État islamique, du terrorisme international. Les attentats de Paris en novembre dernier et l'exécution d'un Chinois par l'État islamique en Syrie ont conduit à un durcissement de la politique de Pékin, notamment au Xinjiang, où nous en avons parlé. Qu'est-ce que l'on sait de la capacité d'attraction de l'État islamique vis-à-vis de certains membres de la population musulmane en Chine? Est-ce qu'il y a beaucoup de Chinois, Rémi Cassette?
Je pense pas que l'attractivité se fasse véritablement depuis le Xinjiang. On a évoqué la question de ces filières d'immigration illégale, ouïghour. Et effectivement, quand vous êtes en situation illégale et que vous êtes sous la menace d'une éventuelle extradition vers la Chine, se pose la question pour certains réfugiés de trouver un endroit où ils seront justement à l'abri de cette éventuelle extradition. Donc il y avait une première filière, fin des années 90-2000, qui avait canalisé ce petit mouvement djihadiste ouïghour, qui était le mouvement islamiste du Turkestan oriental, des jeunes. C'était l'époque où Al-Qaïda dominait un petit peu la sphère djihadiste. Donc on avait des Ouïghours qui passaient en Afghanistan. Et là, j'ai l'impression que c'est un petit peu la même chose. Certains Ouïghours, à mon avis, sont approchés par des Ouïghours qui sont proches de ces mouvements. Il leur est proposé, visiblement, de rejoindre la Syrie pour justement être sur un territoire où ils pourront pratiquer l'islam comme bon leur semble et éventuellement mener un djihad pour la bonne cause. Donc il y a des Ouïghours, effectivement. Donc c'est un phénomène récent, ça date d'il y a 3 ans environ, qui se dirige vers la Syrie, qui passe visiblement par la Turquie. On a des vidéos sur Internet de brigades ouïghours qui visiblement combattent aux côtés du front al-Nosra, c'est-à-dire de la mouvance al-Qaïda. Quelques témoignages et reportés par la presse font état aussi d'ouïghours qui ont été capturés par notamment les forces kurdes, aux côtés de l'État islamique. Mais il semble que l'engagement ouïghour sur le terrain syrien se fasse quand même essentiellement au travers des réseaux Al-Qaïda, et ce qui s'explique puisque cette petite formation que j'avais évoquée, le mouvement islamique du Turkestan oriental, est depuis le début assez lié justement au réseau Al-Qaïda.
Dine Réan, vous souhaitez rajouter quelque chose? Après ça, je passe la parole à Léo Maillet.
Je rejoins Rémi Casse-Tête en disant que, en fait, effectivement, dans la région, il y a très peu de probabilités qu'il soit attiré directement depuis la région vers l'État islamique. Quand on regarde, c'est plutôt depuis la Turquie. En fait, selon ce qu'on sait, les Ouïghours, notamment, en fait, ceux qui sont recueillis dans la difficulté ou dans l'illégalité, qui sont arrivés en Turquie, ils sont souvent délaissés, en fait. Ils n'ont pas obtenu la vie qu'ils ont souhaitée en venant en Turquie. Donc peut-être, en fait, pour une bonne partie, la vie, elle est beaucoup plus dure, d'une part, c'est ça, et d'autre part, en fait, ils ont été récupérés, comme c'est souvent le cas, notamment par les mouvements islamo-nationalistes, notamment souvent la branche plutôt radicale, et qui sont souvent à l'aide, alors qu'ils sont délaissés par les autres partis. Mmh. Et que, malheureusement, en fait, le mouvement Ouïghour en Turquie, c'est souvent, en fait, récupéré aussi par l'extrême droite, ou alors par les nationalistes, ou islamo-nationalistes. Et il y en a qui ont été convaincus par ces personnes qui sont envoyées vers la Syrie depuis la Turquie.
Léo Maillet, vous confirmez ce que vient de dire Dilno Rehan ?
Je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit, en fait, à la fois par Rémi Castet et Dilno Rehan. Ces mouvements nationalistes, panturquistes, qui sont divisés sur une ligne de fracture qui soit s'oriente vers un islam radical, soit vraiment sur une mise en avant de l'identité turque, ces mouvements font vraiment le lien, en fait, à l'arrivée des immigrés. Par exemple, en décembre dernier, il y a eu l'accueil de près de 500 personnes par la municipalité de Kayseri qui arrivaient directement de Malaisie. Et en fait, ces gens-là ont été accueillis à la fois par des entités officielles et par des organisations de la société civile, où là, il y avait des collectes de vêtements qui étaient organisées, etc., de nourriture. Et je pense que là, en effet, il y a des liens qui se créent avec des jeunes qui arrivent en Turquie et qui font face à une situation où ils n'arrivent pas à trouver tout de suite de travail, à s'intégrer directement dans la société turque, qui est quand même très différente de la société d'où ils viennent. Et du coup, je pense que oui, il y a des échanges qui se font, sachant que de plus en plus, depuis le début de l'intervention russe sur le terrain au nord de la Syrie, de plus en plus de combattants turcs aussi viennent participer au djihad et traversent la frontière. Et on sait qu'une partie de ces combattants provient directement de ces organisations ultranationalistes. Du coup, je pense que on peut prendre le risque d'émettre cette supposition, en effet.
Et peut-être, Rémi Castet. Peut-être prolonger aussi la réflexion. Depuis 2 ou 3 ans, se passe quelque chose d'assez important dans la diaspora ouïghour. C'est-à-dire que jusqu'à cette époque, elle était quasiment exclusivement dominée par des organisations justement nationalistes, etc., qui se situaient dans un univers idéologique radicalement différent de celui justement du djihadisme salafi international. Et il y a quelques années, s'est structurée, notamment à Istanbul, une organisation salafi, ouïghour, qui au départ était une organisation parmi d'autres, mais qui, semble-t-il, depuis quelques années, arrive à canaliser des fonds de plus en plus importants et des moyens financiers qui lui permettent de rayonner justement auprès de ces nouvelles communautés qui arrivent en Turquie, peut-être de mieux les prendre en charge, de mieux les encadrer. Et on voit qu'il y a beaucoup d'argent qui est injecté. Et les organisations nationalistes, en ce moment, sont assez inquiètes de voir la montée en puissance de ces organisations, de ces réseaux qui, au-delà de l'accueil des réfugiés, voilà, ont une posture idéologique et une lecture de l'islam qui prépare à certains individus, effectivement, à opérer une mue idéologique, ou en tout cas à se montrer peut-être plus favorable à la logique, justement, de la lutte pour l'islam et du djihad en Syrie.
Dilno Rehan, un mot de conclusion extrêmement rapide pour terminer cette édition.
Dans ce qu'on parle des Ouïghours qui partent vers la Syrie, peut-être il y a en fait des doutes, il y a le rôle aussi de la Chine, d'une certaine manière, on ne sait pas encore, évidemment, et de la Turquie, parce que c'est, en fait, depuis ces dernières 5 années, il y a des milliers de Ouïghours qui illégalement franchissent la frontière. Il y a un problème parce que la Chine, elle est extrêmement protégée au niveau de frontières, et pourquoi autant de personnes puissent sortir, et aussi comment ça se fait qu'en Turquie, ils peuvent partir aussi facilement aussi. Donc en fait, il y a le rôle des 2 États, je pense.
Merci, c'est la fin de Géopolitique. Nous aurons probablement l'occasion de reparler des Ouïghours. Merci à Dilno Rehan, qui est chargée de cours à l'INALCO, l'Institut des langues orientales, et directrice de la revue bilingue Regard sur les Ouïghours. En duplex depuis les studios de nos confrères de Radio France à Bordeaux, que nous remercions, Rémi Castet, ce docteur en sciences politiques, maître de conférences en langue et civilisation chinoise à l'Université Bordeaux-Montaigne, et chargée de cours à à Sciences Po Bordeaux. Et Léo Maillet qui était avec nous par téléphone. Léo Maillet qui est étudiant en deuxième année de master à Sciences Po Grenoble et qui était en ligne depuis la localité de Kayseri en Turquie, à 300 km au sud-est d'Ankara, qui accueille donc une importante communauté ouïghour. Vous pouvez